old records never die.
Soyez les bienvenus à l'écoute de ce nouveau numéro de Old Records Never Die. Pour ne pas échapper à une tradition ancestrale, je vais vous livrer une liste de 10 albums publiés en 2025 qui, pour moi, et uniquement pour moi, sont les meilleurs ou tout au moins les plus intéressants de ce millésime. En avant donc pour mon top album 2025. Alors afin de ne pas faire un classement, parce que j'aime pas ça, j'ai choisi un ordre alphabétique de titres. Et on commence par un groupe créé à la fin des années 60, il y a plus de 50 ans. On était en pleine période rock progressif et ils étaient des représentants éminents. Leur leader, Ian Anderson, avait la particularité de jouer de la flûte traversière, vêtu d'un costume de troubadour médiéval. Sur scène, il se tenait sur un pied. En plus de 50 ans, ils ont produit pas mal d'albums et changé aussi souvent de line-up. Les temps ont changé et le rock progressif est passé aux oubliettes. Mais Jethro Tull, puisque c'est de ce groupe dont il s'agit, a continué contre vents et marées à faire cette musique si particulière et de se produire devant un public inconditionnel. Depuis quelque temps, ils semblent revenir sur le devant de la scène. En 2025, ils ont publié Curious Ruminant, un album dans la lignée du rock progressif. Pour être honnête, je dois vous avouer que ça faisait un bail renouvelé plusieurs fois que je n'avais plus écouté Jethro Tull. Au début, je n'ai pas été surpris. Le sentiment d'avoir déjà entendu ça il y a longtemps. Rien ne semblait avoir changé à part la chevelure de Ian Anderson qui s'est faite aussi rare que les passages de ses disques sur ma platine. Et puis, après une écoute distraite, il en vint une deuxième, plus attentive. Alors effectivement, ça n'a que peu changé. Toujours le même talent, toujours le même type de composition, toujours la même voix, mais un petit truc en plus, un je ne sais quoi qui me conduit à écouter et à apprécier. Est-ce un retour à un passé lointain, une réminiscence de souvenirs effacés, le regret d'avoir vu les années s'écouler aussi vite ou autre chose? Ah ben je pense que c'est autre chose. Une musique qui en devient innovante tellement elle est marquée par le temps. On n'entend plus des choses comme ça depuis de belles lurettes. Le caractère vieillot s'efface derrière la nouveauté et la fraîcheur de sonorité retrouvée. Et je vous propose un titre qui s'appelle Curious Ruminant.
Class. Days of quiet watching thought bubble clouds blow through the years, wondering aloud. Needle matches spark my fires, dissenting voices from steeple spires ring out across the woody hills, as brief as man marched down. Asking, why am I here? Answering, why am I anywhere? Orbiting construct of Jung and Freud, psycho-dreaming asteroid. Thank you. faced with big questions, toss and turn. Unfit to frolic, unconcerned. Asking, why am I here? Answering, why am I anywhere? Orbiting construct of young and fried, psycho-dreaming asteroid. Harsh adjective, improper noun. Reconsider each, every day. I'll change my viewpoint, shift and sway. No head in pickle, soup or stew. Sit on the fence, enjoy the view.
À sa naissance, Laura Cox a trouvé une guitare dans son berceau. Enfin, c'est ce que j'aime à croire. Cette année, elle a publié son quatrième album, Trouble Coming. Son histoire commence par des vidéos publiées sur YouTube qui ont un joli succès. Puis, un premier groupe nommé Laura Cox Band, qui sortira un premier album en 2017. Dès le deuxième en 2019, la notion de groupe a disparu et elle évolue sous son seul nom. De cet album, Laura Cox dit « Trouble Coming marque une nouvelle ère de mon évolution musicale, toujours bien ancrée dans le rock qui m'a forgé, mais guidée par une totale liberté d'écriture et de composition. Cet album reflète le lâcher-prise aussi bien à travers les thèmes abordés que les sonorités plus modernes nées d'une collaboration inattendue. » Laura Cox fait partie de cette nouvelle génération de femmes qui n'hésitent plus à jouer de la guitare et à prendre la tête d'une formation. En France, elle fait partie des pionnières et porte un regard lucide sur son parcours. Ça ne m'a pas dérangé de ne pas avoir de modèle féminin, mais je sais que c'est important pour des filles qui commencent la guitare. Si elles ne voient pas de femmes dans ce milieu, certaines se disent que ce n'est pas possible. elles n'ont pas cette ouverture, la chance de vivre ou d'évoluer dans un univers et dans un climat qui leur laisse penser que tout est possible et ça ne devrait pas être un problème. Elle ajoute « J'ai commencé par la guitare acoustique parce que je me suis dit « c'est sûrement le bon chemin ». Et puis les filles font plus de guitare acoustique. Mais si ce que tu veux faire c'est du rock et que tu es une fille, va direct à l'électrique, tu gagneras du temps. » Ce nouvel album, Trouble Coming, est ouvertement rock. Ça ne donne pas dans la fioriture, au contraire, elle va droit au but et envoie du lourd tout de suite, bien qu'elle se défende d'être une guitar hero. Je suis moins dans l'optique guitar hero, je préfère voir les chansons dans leur globalité, un peu plus l'aspect songwriting, avoir des chansons cohérentes. Le solo est important, mais j'en mets un peu moins partout maintenant. Et on écoute Do I Have Your Attention?
I'm looking for fun and destruction. Do I have your attention? I'm looking for fun and destruction. Do I have your attention? How much you wanna bet? How far I'm gonna go? Will I push the buttons all the way? Do I have your attention? I'm looking for fun and destruction. Do I have your attention?
Le rock est essentiellement américain ou anglais. Il n'empêche que de temps en temps, des groupes venus d'ailleurs en jouent aussi. C'est le cas de The Hives, qui est un groupe suédois de presque 30 ans d'existence. À leur début, tout le monde ose la comparaison avec les Stones et notamment avec le chanteur Mick Jagger. Ils sont indéniablement rock. Leur carrière est surprenante, faite de pauses, d'interruptions et même d'annonces de fin. Ce fut le cas lors de la publication du dernier album. C'était officiellement le dernier. Et cette année, eh ben en voilà un autre qui arrive, intitulé The Hives, Forever The Hives. Il s'inscrit parfaitement dans la tradition du groupe. C'est rapide, nerveux, brutal. Mais ce qui caractérise encore plus ce groupe, c'est la scène. C'est un groupe de scène comme il en existe qui sont de studio. Eux, ils aiment jouer en public. Ils sont toujours vêtus en noir et blanc et ce dernier disque ne déroge pas à la règle. Cette fois-ci, ils sont habillés d'une cape courte en hermine et coiffés d'une couronne royale qui serait la copie conforme de celle que Charles portait le jour de son couronnement. Le groupe qualifie son disque de « arena album », c'est-à-dire conçu pour les grands stades. Mais avec eux, il faut se méfier de ce qu'ils disent. Ils se reconnaissent comme des menteurs pathologiques, et tout ce qu'ils prétendent doit être vu au travers du prisme de leur humour. Ainsi, il n'a jamais été question de ne plus produire d'album, comme ils l'avaient annoncé. Une seule certitude, ils aiment la scène sur laquelle ils s'expriment, et ils expriment toute leur énergie. Ce groupe réussit, malgré 30 ans de carrière, à apparaître comme des petits jeunes pleins d'avenir. En fait, je pense que la recherche du succès n'est pas leur raison d'exister. Ils veulent composer, jouer et enregistrer parce que, selon eux, aucun groupe majeur n'existe sans album studio. Cela sous-entend qu'ils pourraient s'en passer, mais qu'en même temps, ils veulent être reconnus comme un groupe majeur. Leur communication n'est faite que d'annonces sans fondement, juste pour rigoler. Ils balancent des infos qui n'ont aucune base sérieuse, et ça, ça les amuse. C'est un peu leur côté Stone, arrogant, provocateur et grande gouaille. Les qualifier d'inconnus serait injuste, mais ils auraient pu avoir une place plus importante sur la scène rock. Allez savoir s'ils assument pleinement leur prise de position ou s'il n'y a quand même pas quelque part une pointe de regret. The Hives, Forever the Hives, est un très bon disque. Très rock, nerveux, brutal et intense. De vrais rockers, je vous dis. Et le morceau qu'on écoute, c'est Enough is Enough. Samantha Fish vient de Kansas City dans le Missouri. Très vite, elle se passionne pour le blues et la guitare, ce qui va bien ensemble. Elle travaille et acquiert une belle dextérité qui la fait remarquer. Cette année, elle a publié son 9e album depuis 2009. Il se nomme Paper Doll. Samantha Fish est une vraie blueswoman. Elle porte en elle les racines de ce qu'est le blues, même si, à la différence des premiers bluesmen, elle utilise une guitare électrique. Elle avoue aimer jouer dans de petits clubs parce qu'on est proche du public et parce que c'est ce qui se rapproche le plus de l'esprit des joke joints. Son répertoire, c'est le blues et le blues rock. Elle avoue une passion pour des guitaristes comme B.B. King ou Jimi Hendrix. Elle dit de cet album qu'il est le plus audacieux qu'elle ait enregistré à ce jour. Elle a composé et écrit tous les titres. Il a été enregistré à Austin et Los Angeles pendant la dernière tournée américaine, et donc avec les musiciens qui l'accompagnaient sur scène. Une tournée, ça rôde un groupe et ça s'entend. Tout le monde est à l'unisson. Chacun à sa place sait ce qu'il a à faire et personne n'en fait trop. C'est très agréable à écouter. C'est l'alchimie de la route et son charme brut et électrique selon la revue Blues Rock Review. Pourquoi est-il le plus audacieux ? Parce qu'elle y montre toute la palette dont elle est capable. Ce n'est pas un disque d'un seul tenant, pas une monotonalité. On y trouve beaucoup d'influences musicales diverses. Il n'y a pas que du blues ou du rock, ce serait trop simple. Malgré cela, on reconnaît le style Samantha Fish à la première écoute, grâce à sa voix si particulière et sa façon presque nonchalante et décontractée de sortir les notes de sa guitare en toute simplicité, alors que ce ne l'est pas. Il m'a fallu des années pour enfin trouver ma voix en studio, déclare-t-elle. Mais avec cet album, j'ai tout pris et j'ai tout donné. Le thème de la résistance, sans complexe, traverse l'album. Elle explore, se livre un peu plus qu'à l'habitude, en parlant d'amour, de perte et de développement personnel. Le titre que j'ai choisi, c'est « Better Be Lonely ».
You better be lonely.
Tiens, un petit français. Lui aussi, ça fait un moment que la guitare le démange. L'an dernier, il avait publié un album avec plein d'amis en hommage à Calvin Russell. Cette année, il a sorti Man on a Mission. C'est un album qui a des origines blues, indéniablement. Au sujet de ce disque, Manu Lanvin dit « Man on a Mission, c'est un voyage intérieur, mais c'est aussi et surtout une balade à travers le temps où j'ai tenté de réanimer les vieux invisibles, tous ces grands artistes qui m'ont aidé à être qui je suis. » L'album a été enregistré entre Paris, Nashville, Montréal, Fort Lauderdale et Sheffield. Il est certes majoritairement blues, mais on peut aussi y trouver des expressions rock. À ce sujet, Manu Lanvin dit « J'ai une culture musicale vaste et variée, liée à tout ce qu'on a pu me faire écouter depuis que je suis môme. Alors pourquoi se priver d'une palette riche de couleurs pour tenter un joli tableau ? Les nuances sont tellement une richesse pour un album. » Le blues est un style musical qui a une histoire et qui a une signification. On ne joue pas le blues comme n'importe quel autre genre musical. Et Manu en dit « Tant qu'il y aura dans le monde, tel qu'il est devenu aujourd'hui, beaucoup de désolation, trop peu d'espoir, beaucoup trop de division, d'injustice et de cruauté, il y aura du blues sous quelque forme que ce soit. Le blues est une manière d'exorciser le mal en réunion. Je continue bien évidemment à rêver d'un monde meilleur. Et si demain cette humanité ne devenait enfin qu'amour, alors je déposerai les armes, c'est-à-dire ma guitare et mon blues. » Man on a Mission, c'est un album sacrément bien fait. Plus je l'écoute, plus je l'apprécie. Ses sonorités un peu crado parfois, la voix éraillée de Manu sur certains titres, l'énergie sourde qu'il libère de temps en temps, la colère cachée qu'il renferme en font un disque essentiel, et on écoute le titre qui donne son titre à l'album, Man on a Mission.
My gods are the ones who never sold out. Silver came, there was never any doubt. I would follow the trail of the righteous and free. Calvin Russell said, "It takes courage to be me." No, I don't need no permission. Already know what's wrong from right.
L'ordre alphabétique des titres nous réserve parfois des surprises. Figurez-vous qu'on va écouter un autre titre nommé aussi Man on a Mission. Ce n'est pas le même, car si le premier était de Manu Lanvin, le second est des Black Keys. Alors les Black Keys, je ne les présente plus. Groupe garage à l'origine, devenu un fabricant de tubes, un peu contre sa volonté, et revenu à ses premières amours, le blues profond. Après une année difficile pour différentes raisons, Dan Auerbach et Patrick Carney ont décidé de revenir aux fondamentaux avec No Rain, No Flowers. Ils sont allés chercher des vieilles démos, des titres non publiés et les ont retravaillés pour en faire cet album. C'est donc indéniablement un retour aux sources. La différence par rapport au premier, c'est que ce n'est pas enregistré dans une cave ou un entrepôt, mais dans leur propre studio dont ils maîtrisent parfaitement les possibilités. Ils ne sont pas peu fiers de dire que certains titres ont été enregistrés en une prise à l'ancienne. On s'installe, on joue ensemble, on enregistre et c'est dans la boîte. C'est en quelque sorte du public studio. Ça montre la cohérence de cette formation. Les deux se connaissent si bien, s'apprécient tellement qu'ils se comprennent sans s'expliquer pendant des heures. C'est du Black Keys aux inspirations multiples, indie rock, soul, funk, blues. Le mélange de tout ça donne le son Black Keys. C'est un peu leur signature et ils ne sont pas nombreux à le faire avec autant de talent. Ils ont tout supervisé pour avoir la certitude que le produit final sera bien ce qu'ils avaient imaginé. C'est un plaisir énorme que d'écouter les Black Keys dans ces conditions et le titre, c'est nécessairement « Man on a Mission ». Celle dont je vais vous parler maintenant ne sait pas ce que je lui dois. Pendant la période difficile du confinement, elle a égayé mes journées d'ennui avec son album Walking Proof. Depuis, Lily Hyatt a continué à travailler et en 2025 a sorti Forever. Forever, c'est une affaire de famille. Il est produit par Cole Hinson, son mari. Son père, John Hyatt, fait une courte apparition sur un titre et ce disque est dédié à sa famille, ses amis, ses voisins et ses animaux de compagnie. Bon, tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas forcément avec de bons souvenirs et l'esprit de famille qu'on fait un bon disque. Certes, mais avouez que ça vient enrober le tout d'un parfum délicat et nostalgique qui lui sied à merveille. Forever, c'est un pont entre les cadences rêveuses des années 60 et l'angoisse des années 90. Certains vont jusqu'à dire qu'il s'agit d'un rock garage cosmique. Deux termes assez opposés, mais qui soulignent bien l'innovation que Lily Hyatt met dans ses chansons. Le parcours de Lily Hyatt n'a pas été toujours simple ni facile. Depuis quelque temps, elle semble naviguer en eau plus calme. Ce n'est pas encore la mer de la sérénité, mais elle s'en approche. Elle s'est toujours questionnée sur tout, une sorte d'angoisse permanente générée par une espèce de mal-être. Aujourd'hui, ces questionnements ont changé de nature et sont plus faciles à vivre. Forever, c'est parce qu'elle s'est accalmée et qu'elle espère que ça durera longtemps. Il n'y a pas que la misère et le chagrin comme muse. La paix intérieure, les petits bonheurs de chaque instant, la sensation de flottement peuvent aussi s'adhérer productives. L'album a été enregistré à Nashville, où elle s'est installée après avoir vécu recluse dans les forêts profondes de l'Oregon pendant quelque temps. Sa musique est imprégnée de l'esprit innovant qui règne en ce moment dans cette ville. La vraie capitale des États-Unis qu'on aime est à Nashville et surtout pas à Washington. Et on écoute un titre, Shouldn't Be. La surprise de l'année vient de The Dead Daisies, un groupe australo-américain. Ils sont rock tendance hard. La preuve, en 2024, ils ont publié Light 'Em Up, un chef-d'œuvre du genre. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'après les séances d'enregistrement, les gars faisaient des heures sup en jouant pour le plaisir, et ils ont joué du blues. C'est là qu'est venue l'idée de ce nouvel album nommé Looking for Trouble, en référence à une époque où le blues était qualifié de musique du diable, redouté pour ses thèmes de rébellion, de souffrance et de sensualité, disent-ils. Pour bien montrer ce retour aux origines, la photo de la pochette montre un juke joint, ces baraquements qui servaient de salle de concert aux bluesmen noirs du delta du Mississippi. Ils sont allés puiser dans le répertoire des standards du blues, chez Robert Johnson, B.B. King, Muddy Waters, Freddie King, John Lee Hooker, Albert King aussi. C'est quand même pas du n'importe quoi. Le blues qu'ils proposent est rugueux. Ce n'est pas du blues rock, c'est plutôt du hard blues. Ils ne délaissent pas les solos de guitare bien sentis, ils n'oublient pas de frapper fort sur les fûts de la batterie, ils font ronfler les cordes de la basse. Ça donne un ensemble original. On reconnaît les titres immédiatement tant ils sont connus, mais il faut avouer qu'ils y ont mis leur patte personnelle. Nous entrons dans l'histoire du blues, avoue-t-il avec une petite pointe de fierté. Le chanteur John Corabi dit « J'espère que vous aimerez nos interprétations de ces morceaux autant que nous avons aimé les jouer. » Le blues est à l'origine de tout, et je trouve bien qu'un représentant de la scène hard rock, la plus éloignée des origines par la rapidité du jeu et la puissance développée, s'approprie à sa manière des titres qui ont une histoire aussi forte. La musique est vivante et c'est ce genre de disque qui l'a fait évoluer. Une reprise de titres aussi emblématique, déjà repris maintes fois, n'a d'intérêt aujourd'hui que si on lui amène quelque chose de différent. Et on va écouter une reprise d'un morceau sacralisé par B.B. King, un de ses titres les plus célèbres. C'est un blues lent d'une incroyable puissance dans une version qui change de celle de B.B. King et ça s'appelle « The Thrill Is Gone ».
We'll be right back.
Et puis maintenant, on entre dans l'irrationnel, le non raisonnable, le non négociable, en un mot, l'affectif. Les deux derniers disques que j'ai retenus viennent de gens que j'aime tout particulièrement, et pourtant, ils n'ont rien à voir. Cet été, Alice Cooper a publié The Revenge of Alice Cooper. Un album de plus, me direz-vous, certes, mais celui-là a la particularité de reconstituer le Alice Cooper Group des débuts, le plus intéressant et de loin. La formation est composée, outre Alice Cooper, de Neil Smith à la batterie, Dennis Dunaway à la basse, Michael Bruce à la guitare. Il ne manque que Glenn Buxton, décédé. Quelle idée, 50 ans plus tard, de reformer ce groupe, et pas pour reprendre les titres de l'époque, mais pour fournir quelque chose de nouveau. Et force est de constater, en toute objectivité, que ça fonctionne à merveille. Les gars se seraient quittés la veille qu'ils ne joueraient pas aussi bien. Il faut dire que le disque a été enregistré sous la houlette de Bob Ezrin, le producteur qui est un membre à part entière du groupe, tant il lui est indispensable. Alice Cooper et lui forment un duo redoutable car ils se connaissent très bien. Les gars se sont retrouvés, ont joué pour voir ce que ça donnait et ont écrit et composé. Alice Cooper en dit « J'étais étonné de voir que, malgré le fait que plus de 50 ans nous séparaient de notre précédent album ensemble, Muscle of Love en 1973, cela s'est passé comme si de rien n'était. Nous avons tout enregistré dans des conditions live et ils ont tous dépassé mes attentes. Nous avons accidentellement fait un album de 1975. » Glenn Buxton n'est plus là. C'était le grand copain, celui qui a participé à la composition de plusieurs titres d'Alice Cooper, Skulls Out par exemple. Il est décédé en 1997 d'une pneumonie, mais avait aussi connu pas mal de problèmes avec des substances addictives. Il n'est donc plus là, mais il est néanmoins crédité car on a retrouvé quelques-uns de ses solos dans les archives et on les a intégrés dans les nouveaux titres. C'est donc un album sans Glenn Buxton, mais avec Glenn Buxton. Musicalement, ça reste du hard rock. Le temps a passé et la façon de jouer est peut-être un peu moins rugueuse. Ils ont gagné en maturité ce qu'ils ont perdu en folie. Faut dire qu'ils ont entre 75 et 80 ans et qu'à cet âge, on ne joue plus comme à 20 ans. On aurait pu craindre le pire à l'occasion de la reformation de ce groupe. Reprendre des titres, copier ce qu'ils faisaient auparavant, mais ce n'est pas le cas. Ils ont créé, pas innové car ils sont restés fidèles au principe du hard rock dans un registre toutefois légèrement différent et le titre qu'on écoute se nomme Wild Ones.
Crashing through
enfin, celle que j'aime aussi beaucoup depuis quelques années. Tout ce qu'elle fait est touché par la grâce. Elle chante à merveille, joue de la guitare divinement bien. Elle est humble et reconnaît qu'elle travaille énormément pour être au niveau. Joan Shaw Taylor évolue avec classe entre rock et blues et son dernier album Black and Gold n'échappe pas à la règle. À chaque nouvel album, mon admiration pour elle et son travail va crescendo. La jeune guitariste vient encore de franchir un nouveau palier. L'album met en évidence la créativité audacieuse de la musicienne britannique, mélangeant le blues rock avec des influences de l'americana, du rock indépendant et de la pop rétro des années 80. L'album est enregistré au Journeyman Studio de Joe Bonamassa, qui s'engage à laisser les musiciens sortir leur musique selon leurs propres conditions. Elle trouve son compte dans cette façon de travailler. Jusqu'à présent, chaque disque présentait une évolution par rapport au précédent, et cette fois, c'est encore le cas. Elle est un peu à part dans le monde du blues rock, où elle a désormais sa place à part entière. Elle fait partie de ces gens qui pensent que rien n'est jamais acquis définitivement et que pour durer et séduire le public, il faut le surprendre par la qualité, le sérieux et la sincérité des engagements. Et on écoute un titre de Joan Shaw Taylor et ça s'appelle « Who's Gonna Love Me Now ?» C'était ma top liste de l'année 2025, les 10 meilleurs albums qui, selon moi, sont parus cette année. J'espère que vous partagez mon choix. À très bientôt. Au revoir.